entrer dans la métaphysique de l'un et du multiple. Ce qui est quand même quelque chose de très important et de difficile pour nous. C'est difficile parce que, comme nous l'avons vu, les positions sur l'un et le multiple sont diverses. Et si elles sont diverses, c'est parce que justement, il y a une certaine séduction de l'un. Et cette séduction risque de ne pas saisir vraiment en profondeur ce que c'est que l'un. On risque de rester un peu à l'extérieur, comme toujours toute séduction. La séduction, c'est la forme qui prend le pas sur l'être. On est séduit par la forme. Alors ce serait intéressant de voir comment la forme qui implique une certaine unité peut nous empêcher de pénétrer plus avant et de saisir l'un dans ce qu'il a de propre, de caractéristique. Je crois que l'un séduit beaucoup. Ça séduit beaucoup les artistes. Comme on est tous un peu artistes, hein, dans notre monde d'aujourd'hui, alors on est toujours un psy. C'est la métaphysique de l'un. Relisez un peu pour comprendre ça, ce que dit Duméry. Pas le temps de le faire. Si vous avez le temps de faire, vous verriez cette philosophie de Duméry, qui est une philosophie très nettement, elle n'est pas bête, elle est intelligente. Et c'est une philosophie qui montre la séduction de l'un. On est séduit par l'un. Alors, il faut savoir, vous savez très bien que quand on connaît ces séductions, on tombe plus difficilement dedans. Il faut comprendre qu'on est séduit par l'un. On est séduit par l'un. Et plus on est en face d'un monde de pluralisme, plus on est en face d'un monde chaotique, plus on est en face d'un monde où la multiplicité semble l'emporter, plus on désire alors en sortir. Et en sortir en découvrant l'un. Et alors, on est séduit par l'un. On croit que c'est la solution. Et je prendrai des petits problèmes très simples, même au point de vue théologique, on arriverait à la même chose. C'est la séduction de l'œcuménisme. C'est vrai, on va à tout prix l'un. Est-ce que c'est ça qu'on doit chercher? À tout prix l'un. Il y a la vérité, il y a l'amour. C'est pas l'un qui... Je sais très bien, Jésus nous dit qu'il soit un comme nous sommes un. Quand Jésus dit ça, on a l'impression que c'est ça que je cherchais en premier lieu. Heureusement qu'il termine en disant qu'il faut être dans l'amour, et que c'est l'amour qui termine tout. Au fond, les liens entre l'amour et l'un, qu'est-ce qui serait très important à saisir, est-ce qu'il vaut mieux aimer ou être dans l'unité? Le dilemme cornélien, dans l'amour de l'amitié, vaut-il mieux à tout prix être un? Ou est-ce qu'il faut avant tout s'aimer et respecter par le fait même une certaine diversité? Il y a des spiritualités de l'un, il y a des spiritualités d'amour. Alors, optez en vous, dans le fond de votre cœur, c'est ça qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire son petit examen. Parce que c'est ça qu'on essaie de comprendre. On essaie de saisir, de fait, il y a un problème là qui est constant. Et dans l'ordre pratique, il y a des spiritualités, quand je prends spiritualité, je le prends en très grand sens, il y a des spiritualités qui cherchent à tout prix l'unité, avant tout. On va sabrer tout, ça n'a pas d'importance, c'est l'unité qu'il faut. L'unité de la méthode. Ou est-ce qu'au contraire, on va respecter davantage les personnes par un amour plus grand et comprendre que l'unité peut-être apparaîtra plus tard à travers une diversité plus grande. Vous voyez, il y a là un problème très très foncier. Hein. au plan affectif. On n'a qu'à réfléchir, tout simplement, quand on aime quelqu'un, dans de l'amitié, idem velle, vous savez bien ce qu'on dit à propos de l'amitié, idem velle, le même vouloir, donc c'est l'unité, c'est l'unité du vouloir. Alors est-ce que c'est ça qui caractérise l'amour d'amitié, ou est-ce que c'est un front? Je cherche avant tout l'identité du vouloir, je deviens tyrannique. Parce que si quelqu'un n'a pas la même volonté que moi, ça ne va plus du tout. S'il n'a pas la même volonté que moi, ça ne va plus. Donc il faut à tout prix qu'il ait la même volonté que moi. S'il n'a pas la même volonté que moi, ça ne va pas plus. Alors je deviens tyrannique. Il y a des tyrans qui tuent l'amour et qui veulent une unité à tout prix. Vous voyez, alors on va tout de suite trouver, je crois que c'est important à saisir dès le point de départ, parce qu'il s'agit de montrer l'importance du problème, vous voyez, pas uniquement, c'est un problème d'école, pas du tout, c'est un problème de vie. Chacun d'entre vous, vous avez ou une séduction de l'unité dans l'amour que vous avez pour quelqu'un, ou vous avez au contraire un primat de l'amour. Si je peux poser le problème comme ça, je crois que normalement vous êtes bien né, alors vous direz que non, moi je suis pour l'amour. Oui, mais regarde un peu dans ta vie, exactement, tu cherches toujours l'unité. C'est pas l'amour que tu cherches. Tu ne respectes pas l'autre. C'est élémentaire de respecter l'autre. C'est élémentaire quand on aime. On respecte l'autre. Alors, c'est tout le temps ton idée. C'était ton idée que tu poursuis. Et tu vas tout le que j'épouse cette idée. Je ne vais pas épouser l'idée, je t'ai toi que j'aime. C'est comme ça les scènes ménages. Hein, c'est. Et là, les scènes ménages, elles existent dans des plans très différents. Mais c'est toujours ce dilemme qui est très, très profond. Et c'est ça qu'on doit essayer de saisir. Parce que c'est important de saisir le point de vue de l'un et de l'amour. Le point de vue de l'un et du bien. Oui, dans Platon, le bien et l'un, ça ne fait qu'un. Je ne sais pas comment il s'est dit. On sait très bien comment il s'est dit. Il suffit de regarder la politique. La République de Platon, on voit très bien comment s'en sentir. C'est l'unité avant tout. Il y a des politiques qui sont des politiques de l'unité. Et qui tuent l'amour. Et qui tuent la personne. Alors, il faut qu'il y ait des individus. Parce qu'on peut mieux effacer les unir. Il y a là pas de problème, vous voyez, au point de vue de l'amitié. Poser le problème au point de vue de l'amitié. L'amour est là. Poser le problème au niveau politique. Le bien commun et l'unité. Cette fameuse chose qu'Aristote dit dans sa République. L'un n'est pas le bien commun. Et Platon a voulu aller trop loin dans l'unité, il n'a pas respecté le bien commun. Ça, je suis très beau à regarder la politique d'Aristote. Il est très, 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 très intéressant quand il fait la critique de la politique de Platon. Parce que c'est toujours actuel, Platon. Toujours actuel. C'est intéressant d'avoir une vision de ce que représente l'unité et le bien commun. Oui, c'est quand même toujours un peu l'un et le bien. Donc il y a l'un et le bien. L'un, il y a l'amour. Au niveau éthique, au point de vue religieux également. Je vais regarder ce point de vue-là. Si tu es exactement où l'un a toute sa force, où l'un demande d'être dépassé par quelque chose de plus profond, je peux encore voir qu'au point de vue logique, il y a différents types d'unités. Il y a une unité univoque et il y a une unité analogique. C'est important à titre d'entrée dedans, vous voyez. Parce qu'ordinairement, les mentalités logiques sont pour l'unité. Les défauts que vous avez vis-à-vis des gens qui sont des logiciens, alors, avant tout, des logiciens, au point de vue religieux, au point de vue théologique, vous savez bien que cette grande guérille, c'est toujours la logique, la séduction de la logique, qui joue un rôle très très important aujourd'hui, hein, la séduction de la logique. Alors, au point de vue logique, vous avez l'unité uniforme, univoque. C'est la grosse unité. C'est l'unité du carré romain. C'est propre, c'est net, c'est quelque chose à... C'est vrai, un carré, c'est parfaitement un. Tout à fait, c'est qu'il faut. Alors, il y a l'unité fondamentale, univoque, et puis il y a l'unité analogique. Ah, tout à fait autre chose. Vous faites passer devant la diversité, et vous découvrez, au-delà de la diversité, le petit commun, quelque chose de commun. Quelque chose d'un. Je crois que tout le point de vue de notre intelligence est toujours pris par ce drame de ces deux unités. L'unité univoque de l'universel, tout simplement, qui est un ordre de raison. Fabriquons ça. C'est la première, premier fruit de notre fabrication, c'est l'unité. Et l'unité univoque de l'universel. Nous l'aimons beaucoup, parce que c'est le fruit le plus naturel à nous. Comme ne faisons pas grande attention, c'est l'universel, l'amour universel, hein, c'est, il n'y a rien de mieux. Aimer tout le monde de la même façon. Alors ce sens-là, c'est propre. Va aimer tout le monde de la même façon. On met tout le monde dans la même caisse. Va. Tous les œufs doivent avoir la même longueur. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les poires et toutes les pommes doivent être de la même façon. Peu importe le goût, le tout, c'est que ça doit être de la même façon. Et si c'est en dehors, non, c'est en dehors. On vit cette espèce d'unité univoque hein, qui touche l'égalité, vous voyez, qui est très proche de l'égalité. L'unité univoque et l'égalité, ça va très très bien ensemble. Et au contraire, l'unité est dans l'ordre de la qualité qui fait passer devant la diversité, l'unité analogique. Dans l'unité analogique, on respecte la diversité. On respecte la diversité, on respecte l'autre. Et on essaie de comprendre, au-delà de la diversité, qu'est-ce qu'il y a de commun. C'est tout à fait différent comme mentalité. C'est vraiment les deux extrêmes de l'intelligence humaine. C'est les deux extrêmes. Il faut mettre les deux. Hein. Dans certains domaines, il faut l'unité univoque. Dans d'autres domaines, il faut l'unité analogique. Et ce qui est terrible, c'est la confusion des domaines. L'unité univoque, elle est de l'ordre de la quantité. C'est l'unité générique. L'unité générique, elle se prend ex parte matériae. Petite affirmation de saint Thomas qui est si belle. L'unité générique, elle se prend ex parte matériae. Elle se prend du côté de la matière. Or, si elle se prend du côté de la matière, comprenez bien, c'est pas la matière, c'est la quantité. C'est grâce à l'abstraction qu'on a l'unité générique. Et l'abstraction en nous est premièrement générique. Quand on abstrait, sans faire attention, naturellement, c'est l'unité générique. L'unité générique, c'est l'unité la plus grande qui soit, la plus fondamentale. L'unité analogique, c'est l'unité qui maintient la diversité. Et alors, il y a deux conceptions de l'œcuménisme. Une générique et l'autre analogique. Et c'est vrai, ça. Deux conceptions de l'œcuménisme. Une générique, alors à ce moment-là c'est très simple, que chacun abandonne ce qu'il a d'original. Et puis l'unité analogique, que chacun pousse le plus loin possible dans la recherche de la vérité et de l'amour, ils se retrouveront un. Je ne dis pas la plus grande originalité donnera l'unité, non, ça ce serait une caricature, tu vois, pas la plus grande originalité, ce serait encore trop artistique. Mais il y a quelque chose de juste dans cette unité analogique qui fait qu'on respecte la diversité. Mais il faut sentir ça, il faut sentir que le problème de l'unité au point de vue logique, vous voyez, c'est pas simple du tout. Il y a les deux aspects en nous, et c'est le drame de notre vie intellectuelle, ça. Parce que ça peut être un drame très grand, ces deux espèces d'unité. Et on n'a pas le droit d'en supprimer une au lieu de l'autre. Je vous affirme que si on réfléchissait un peu sur ce problème de l'un et du multiple, ça s'apercevrait d'une quantité. Les gens qui sont pour l'unité de la méthode, peu importe le reste, pour que tout le monde passe par ça. Qu'est-ce que c'est que cette unité? Unité générique. cette unité par le bas. C'était quantitative. C'est beaucoup plus simple. Mais ça, l'inconvénient, c'est que vous supprimez toutes les personnes. Dès qu'il y a un tout petit peu quelqu'un qui a une petite personnalité un peu plus grande que les autres, et tu peux me céder cet exemple que je vous ai déjà donné, qui fait très bien comprendre ça, c'est cette visite à la Chartreuse. Et cet Américain, ce grand Américain qui était là, qui revenait, parce qu'il faut dire que c'était un grand Américain, parce que ça vaut mieux, n'est-ce pas? Là, on comprend mieux ce grand Américain qui revenait ça avec la Chartreuse. Alors, on lui montre le lit du Chartreuse. Il était petit, ce lit du Chartreuse, comparativement à sa grandeur. Alors, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il dit, toutes les cellules sont comme ça. Toutes les cellules, la vie commune, toutes les cellules sont comme ça. Alors il pose la question, mais tant mes grands-pailles, qu'est-ce qu'on fait? Alors celui qui fait visiter le visiteur, on continue du même ton, on lui coupe les pieds. Pour faire la taille du lit, vous voyez. Tout le monde rit devant ça, hein, c'est extraordinaire. C'est la méthode, vous voyez, qui l'emporte sur la personne. C'est exactement ça. Alors, quand on le fait au point de vue de la méthode, on voit moins. On coupe les pieds. Ordinairement, c'est l'intelligence qu'on coupe. On enlève la finalité. Ça se voit moins. Et on crie moins. Parce que quand on vous coupe les pieds, ça se voit. Tandis que quand on coupe l'intelligence, quand on enlève la finalité, là, on se dit, oui, c'est très bien. Et au fond, c'est le problème de l'individu. Je vous affirme qu'il faut y réfléchir avec beaucoup d'acuité. Bon, alors, nous allons essayer de comprendre maintenant. Une fois qu'on a compris l'importance, vous avez dit la dernière fois, regarde aussi le langage. Maintenant, je vais revenir à l'expérience. Quelles sont les expériences que nous avons de l'unité? Puisque c'est toujours à partir de l'expérience qu'il est essayé de faire de la philosophie, et réfléchir. Alors ici, on va voir que cette expérience ne va pas nous conduire à une induction, et c'est ça qui est intéressant, cette expérience va nous conduire à saisir l'explication. Il y a des expériences qui nous conduisent à l'induction. Et il y a des expériences qui nous conduisent à une explication. Ce n'est pas la même chose. Alors c'est ça qui est intéressant à voir. Quelles sont nos grandes expériences de l'unité? Première expérience de l'unité, c'est plus explicite, c'est à propos d'une œuvre d'art. Si on a un peu de sensibilité artistique, vous voyez l'autre jour avec ce que Dominique Ponneau vous disait. L'unité d'une œuvre d'art. C'est très important. Picturale, architecturale, poétique. L'unité d'une œuvre d'art. C'est la première chose qu'on sent. L'unité d'une œuvre d'art. Il faut saisir ce que représente l'unité d'une œuvre d'art. On en a tous l'expérience. Et on sait très bien que la grande faute contre l'art, la grande faute, c'est de manquer d'unité. L'unité, quand vous faites une icône, il y a une unité. Et il suffit d'un rien pour que l'unité disparaisse. On le sent ou on ne le sent pas, mais on le sent ou un autre, parce que quelquefois, quand on est trop dedans, on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin de demander à quelqu'un d'autre, est-ce que ça va? Est-ce que tu crois que l'unité est sauvegardée? Il y a encore une unité. Ou est-ce que j'ai été trop loin? L'œuvre d'art implique des éléments multiples, très variés. Et plus on est en face d'un chef-d'œuvre, plus les éléments sont écartés. Le chef-d'œuvre de Dieu, c'est d'avoir uni l'esprit et la matière. C'est dans ce sens-là qu'on est les chefs-d'œuvre de Dieu. Et ça, c'est fameux. Ça, c'est l'art divin. Parce que vous savez, c'est pas commode de dire d'unir l'esprit et la matière. Hein. Vous comprenez, le sous-sol, hein, la vie végétative. Hein. Et le sommet, avec l'œil de bœuf, la vie contemplative. Hein. C'est commode d'unir les deux. Et entre deux, une espèce d'anarchie extraordinaire de la vie sensible et passionnelle. Alors on a envie de prendre une hache dans la vie passionnelle, supprimons tout ça pour que la vie contemplative puisse continuer, et puis soyons des ascètes de premier ordre pour que notre vie végétative ne nous écarte pas trop. Alors au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez un boulot. Boulot extraordinaire. Encore trois cheveux au bout de la tête. C'est un boulot extraordinaire. C'est un boulot. Tout est détruit, mais la moindre orage, le moindre ouragan fait que le boulot dégringole. Il n'a pas assez tenu. On sentait bien ça, c'est sûr que c'est pas commun, comme chef-d'œuvre de Dieu, d'unir l'esprit et la matière. La vie végétative. La vie végétative, c'est dans la complexité la plus grande. L'homme est l'animal le plus complexe qui soit. Et l'homme est l'animal le plus simple qui soit. Du moins, celui qui aspire à la simplicité. Parce que l'animal n'aspire pas à la simplicité, mais qu'à lui demander. Tandis que l'homme aspire à la simplicité. Et les grands artistes aspirent à la simplicité. Donc on voit toujours le retard. Les petits, ils en ajoutent, c'est comme première dissertation. Il y a 40 pages, au moins il y a la quantité. L'autre, mais non. Et c'est vrai, c'est pas comme du tout, hein, d'arriver à une simplicité dans le verre. Matisse, à la fin de sa vie. Saint-Dominique. Matisse. Le monde était trop simple, quelquefois. On peut se demander si c'est pas trop simple. Il n'y a pas une exagération, une nostalgie telle de la simplicité que. Il n'y a plus qu'une ligne, mais une très belle ligne. Et au fond, cette chose très mystérieuse, l'œuvre d'art, qui implique une complexité d'éléments et une unification de ces éléments. Et plus on est en face d'éléments divers, même opposés, qui sont unifiés, mais profondément unifiés du dedans, plus vous êtes en face d'un chef-d'œuvre. Vous ne revêtez pas seulement l'unité, on unifie dans la manière dont c'est unifié. Et quand vous regardez la manière dont c'est unifié, et que vous voyez la diversité, alors c'est ça qui fait la chose étonnante. Donc nous avons l'expérience de l'unité d'art. D'où vient cette unité? Qu'est-ce que c'est que cette unité dans l'œuvre d'art? Est-ce que c'est l'unité qui définit l'œuvre d'art? Non. L'unité est nécessaire à l'œuvre d'art. Et c'est pas ça. Parce que si une unité, alors mettez des choses d'une simplicité absolue, vous direz voilà une œuvre d'art. Non, c'est pas ça qui définit l'œuvre d'art. L'unité ne définit pas l'œuvre d'art. L'unité est nécessaire à l'œuvre d'art, c'est l'unité que j'expérimente en premier lieu, mais l'œuvre d'art, elle est dans une forme, et une forme qui implique une certaine splendeur. Et c'est cette splendeur dans la forme qui fait l'unité d'art, l'expression de la forme, et la splendeur de la forme. Donc l'unité ne définit pas l'œuvre d'art. L'unité n'est pas principe de l'œuvre d'art. L'unité est donc ce qui est nécessaire. C'est même ce qui apparaît en premier lieu, mais ce n'est pas la source. La source de l'œuvre d'art n'est pas l'unité. Donc je vois que l'unité n'explique pas l'œuvre d'art. Que l'unité est nécessaire à l'œuvre d'art, mais ne l'explique pas. C'est cette recherche d'une forme expressive, d'une forme qui peut s'épanouir pleinement. Une qualité, une forme, c'est une qualité. Une qualité liée à une autre qualité, pour que l'autre qualité mette en pleine lumière cette qualité, cette forme expressive. D'où l'unité nécessaire à l'intérieur. Je pourrais donc dire que l'unité n'explique pas l'œuvre d'art. Elle n'est donc pas principe. Mais elle est nécessaire. La première chose que je peux dire, c'est que je crois qu'on peut facilement comprendre qu'une œuvre d'art a besoin d'unité, que l'unité est absolument nécessaire dans l'œuvre d'art, et que l'unité ne donne pas le sens et la signification de l'œuvre d'art. La critique, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que d'une certaine manière, une œuvre d'art comme œuvre d'art est incritiquable. Du fait même qu'on critique l'unité d'une œuvre d'art, ça prouve que c'est quelque chose qui n'est pas directement l'œuvre d'art. Une forme ne se critique pas. On la sait. Et une forme ne se peut pas se critiquer. Une œuvre d'art est critiquable. Et l'artiste le sait très bien. Et vous expliquez une œuvre d'art par le point de vue de son unité ou au manque d'unité. Et sa critique, c'est le manque d'unité. Que vous voyez, on pourrait dire, c'est qu'il y a des éléments merveilleux dans cette œuvre, mais il manque d'unité. Et voilà la critique. C'est intéressant parce que ça montre par où c'est critiquable. Si c'est par où c'est critiquable, ça prouve que c'est une condition nécessaire à l'œuvre d'art, parce que ce n'est pas ce qui définit l'œuvre d'art. Parce qu'une œuvre d'art ne peut pas se critiquer. En tant que rigoureux, je ne crois pas qu'il y ait des critiques d'art. Je ne crois pas. On n'avait qu'à regarder la réaction toute simple d'un forgeron. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais ceux qui ont connu de vraies attitudes, ils ont prenu le forgeron. Et que vous venez en putain d'intellectuel, en disant, dans les poches, je dis, c'est pas bien ce que vous faites. Quelle est la réaction de ce forgeron? C'est de vous donner ses instruments. Faites la même chose. Quand vous ferez quelque chose de mieux, vous pourrez me critiquer, mais pas avant. Et il aura raison. Il a du bon sens. L'artisan sait. Il sait qu'il n'y a pas de critique d'art. Au sens douloureux. Il explique, on essaie de comprendre, on essaie d'entrer. Le critique d'art, au fond, saisit les défauts. Saisir les défauts, c'est bien. Ce n'est pas du tout. Critique de l'art, c'est critique des défauts de l'art. C'est pas la même chose. Manifester les défauts d'une œuvre. Et par là, la œuvre est en pleine lumière, mais ce n'est pas une critique. L'art, une œuvre se comprend directement à elle-même. Comme une forme, elle est indivisible. Ah, une forme est indivisible. Vous voyez bien, la forme implique l'indivisibilité. L'œuvre d'art implique une forme expressive et l'effet de l'œuvre d'art, c'est le manque d'unité. C'est-à-dire que la forme ne domine pas entièrement la matière. Et là, je comprends très bien ce que certains disent, comme Plotin, que lorsque la forme ne domine pas entièrement la matière, il laisse la matière dans sa potentialité et donc dans sa multiplicité, l'œuvre d'art n'est pas une. Donc, elle n'est pas pleinement belle. Parce qu'elle n'est pas entièrement dominée. Je vois donc le rôle de l'unité qui vient caractériser la forme. Une forme réclame l'indivisibilité. Et c'est pour ça que l'œuvre d'art réclame l'unité. Et que l'unité ou le manque d'unité manifeste tout de suite si la forme est victorieuse ou n'est pas victorieuse de la matière. Je prends un autre exemple, un exprès, des grands exemples d'unité. Réfléchissez sur les quelques exemples d'unité que vous pouvez avoir dans votre vie. Autre exemple d'unité, c'est à propos de l'amitié. C'est bien évident que l'amour d'amitié est pour moi le lieu peut-être principal de savoir ce que c'est que l'unité. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que les amis aient le même vouloir. Le même vouloir. Il faut que les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire toujours que les amis doivent dire Amen, Amen. Non, non, non. Il faut que les amis tendent vers la même intention de vie. Les amis ne tendent plus vers la même intention de vie. Il y a quelque chose qui fait que la pitié ne peut pas progresser. L'amitié doit progresser. Il doit progresser dans l'amour. Et c'est pour ça qu'il faut que les amis recherchent profondément la même fin, la même intention de vie. Ce n'est pas dans les choix. Les choix peuvent être divers. Il faut même respecter la diversité des choix. Mais il faut tout le temps revenir à cette même intention qui fait l'unité. Et quand il n'y a plus cette unité dans l'ordre d'intention, l'amour d'amitié diminue. L'amour d'amitié ne peut plus progresser. Il ne tend plus vers la même intention de vie. Il y a quelque chose qui fait que l'amitié ne peut pas progresser. L'amitié doit progresser. Il doit progresser dans l'amour. C'est pour ça qu'il faut que les amis recherchent profondément la même fin, la même intention de vie. Ce n'est pas dans les choix. Les choix peuvent être divers. Il faut même respecter la diversité des choix. Mais il faut tout le temps revenir à cette même intention qui fait l'unité. Et quand il n'y a plus cette unité dans l'ordre de l'intention, l'amour d'amitié diminue. L'amour d'amitié ne peut plus progresser. Les choix peuvent être très différents, mais s'il n'y a plus cette unité dans l'intention, il y a quelque chose qui manque. Je vois donc que l'unité est liée aussi à l'amour d'amitié, mais que l'unité ne fait pas l'amour d'amitié. Donc, l'unité apparaît comme une conséquence de l'amour. Dans ce sens-là que Denis pourra dire que l'amour est une force unitive, et que plus l'amour est grand, plus l'amour fait l'unité. C'est l'amour qui est source d'unité, c'est pas l'unité qui est source d'amour. Ah, vous voyez, nous commençons à mieux comprendre ici. Nous avons vu tout à l'heure que l'unité était une conséquence de la forme. Nous voyons ici que l'unité est encore une conséquence de l'amour. Donc l'unité n'apparaît jamais comme ce qui est du côté de la finalité. Je ne fais pas une œuvre une, je fais une œuvre qui s'exprime parfaitement. Dans l'amour, je ne cherche pas l'unité avant tout, je cherche à aimer. Et je sais que plus j'aimerai celui qui est l'ami, plus nous serons un dans notre recherche profonde de vérité, dans notre recherche profonde d'amour. L'amour apparaît donc comme ce qui est une conséquence. Je veux dire, l'unité apparaît donc comme une conséquence de l'amour, comme une exigence de l'amour. L'amour réclame l'unité. Alors ça, il faudrait se demander pourquoi l'amour réclame l'unité. Et c'est vrai que l'amour réclame l'unité. L'amour fait l'unité et l'amour réclame l'unité. Donc l'amour est comme enveloppé par l'unité. Mais l'unité n'est pas l'amour. Et l'amour, l'unité n'est pas source d'amour. Alors pourquoi l'amour réclame l'unité? L'amour me lie à la fin, au bien, à ce qui est capable de me perfectionner. Alors, parce que l'amour me lie à ce qui est capable de me perfectionner, l'amour va réaliser cette unité entre mon bien et moi-même. Une unité affective, mais une unité qui demande d'être réelle. Et l'amour d'amitié, c'est l'amour affectif qui réclame cette unité réelle. C'est pour cela qu'il doit y avoir, à partir de l'amour, cette recherche de l'unité. Mais l'unité n'est pas première. Si je recherche en premier lieu l'unité, je risquerai à ce moment-là de ne plus respecter avec suffisamment de force ce qu'est l'amour. Je crois que là encore, c'est facile de comprendre comment l'unité n'est pas première. J'ai donc la forme qui dépasse l'unité, j'ai donc l'amour qui dépasse l'unité. Troisième expérience, hein, je prends les grandes expériences de l'unité que nous avons. Puis si vous en avez d'autres, vous me le direz. Parce que c'est toujours intéressant de rechercher quelles sont vos grandes expériences de l'unité. Il faut chercher ça, réfléchissez sur quelles sont les quelques grandes expériences de l'unité que vous avez. Troisième grande expérience de l'unité que nous avons par rapport à nous-mêmes. En tant que nous sommes un être vivant, complexe, on commence à s'apercevoir de la complexité de notre être quand nous commençons à avoir mal à la tête, mal aux cheveux, mal aux dents, mal à l'œil, et on perçoit que c'est complexe. Hein. Et on dit ça du reste. Quand vous êtes en pleine forme, vous ne sentez pas la complexité. Vous l'avez dépassée. Un sportif, surtout quand il fait du ski, merveilleux d'avoir son unité. C'est vrai, c'est extraordinaire de voir ça. Tout entier pris par ce qu'il fait. Prenez un danseur, c'est la même chose. L'unité. Et s'il a un tout petit peu mal aux pieds, il dira ça me gêne. Pour danser, je ne suis plus suffisamment unifié. Très curieux. Il y a une expérience d'immanence là, vous voyez, c'est tout à fait autre chose que les autres expériences. Une expérience d'immanence, d'unité de notre corps, d'unité de ce que représente, au point de vue, la vie biologique. La vie est parfaitement elle-même, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement en santé, que quand il y a l'unité. Dès que la maladie, dès que le mal vient, je sens la complexité. Les anciens définissaient la santé par une harmonie. Et l'harmonie, c'est justement l'unité dans la complexité. L'harmonie des humeurs, hein, c'est très très beau. L'harmonie des humeurs. Il y a quelque chose de juste là, au point de vue de ce que nous ressentons, au point de vue de notre expérience. C'est que si il y a une partie de notre corps, eh bien, nous le ressentons tout de suite. Nous sommes une bête traquée. Et quelquefois, quand ça va très loin, on sait qu'on ne peut plus. Alors que s'il y a une harmonie parfaite, on est en pleine santé, on ne s'arrête pas à la complexité. C'est l'unité, l'harmonie qui domine. Et cette harmonie qui domine fait que, d'une manière immanente, je crois que nous avons là trois expériences de l'unité qui sont capitales. Philosophiquement parlant, elles sont capitales. Et je crois qu'elles sont très importantes. Alors voyez, je vois, si je suis attentif, le rapport de l'unité à la forme, de la qualité, le rapport de l'unité et de l'amour, le rapport de l'unité et de la vie. Maintenant, il me reste à voir le rapport de l'unité et de l'être. Alors là, j'en ai pas l'expérience. Mais c'est à partir de ces trois expériences d'unité que je peux saisir le rapport de l'unité et de l'être.